Bonsoir, je prends une minute pour vous dire que je suis Guy Bertion, président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mais ça, vous vouliez pas le savoir. Ce que vous voulez savoir, c'est que je suis avec Christiane Charette, dont je vous fais une brève présentation parce que je suis sûr que vous la connaissez tous. Christiane, donc, est animatrice de télévision et de radio depuis 30 ans. Elle a commencé à 4 ans. Et elle est donc récipiendaire de 13 prix Gémeaux pour son émission Christiane Charette en direct d'un Métro Star, personnalité féminine de l'année en 97. Et elle anime depuis septembre 2006 une émission radiophonique quotidienne à la première chaîne de Radio-Canada. Merci. Merci, Christiane, d'être là ce soir.
Grand plaisir.
Je vais vous demander de me permettre une parenthèse très brève pour vous expliquer une chose simple. Normalement, quand je fais ce genre d'entrevue, ce que les convenances veulent, c'est que je vous vois les invités. Ça fait très Radio-Canadien, puis je fais pas honte à Christiane. On a un petit problème, Christiane et moi, c'est qu'on se connaît depuis 45 ans. Pour tout vous dire, ça a été ma première blonde. Et donc, on se sentirait tous les deux très ridicules d'essayer de se vous voyer. Puis de toute façon, on s'enfargerait au bout de deux phrases. Donc, vous allez nous permettre de nous tutoyer. Merci beaucoup. Christiane, quelques questions pour placer ta bibliothèque, tes habitudes.
Est-ce que je peux dire bonsoir avant?
Bien sûr.
Vraiment, je suis ravie. Je m'attendais à ce que, je ne sais pas, moi, il y ait trois rangées avec quelques personnes. Je suis ravie de voir tous ces gens-là qui vous êtes déplacés, que vous êtes ici ce soir. Il y a certains visages que je connais. Il y a des gens que je connais. Il y a des gens que je ne vois même pas aussi loin. Il y a la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, mais parler de livres, c'est à peu près la chose que j'aime le plus au monde, d'être invitée par Guy, ici à la Grande Bibliothèque, dans cet endroit extraordinaire. C'est un grand bonheur pour moi d'être ici ce soir, de parler des livres que j'aime et que vous soyez venus ici aussi nombreux pour nous entendre tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Comprenez que ça va être un petit peu difficile d'être l'intervieweur, mais on va y arriver. Donc, Christiane, qu'emporte ta bibliothèque, tes habitudes de lecture? Tes livres, il y en a là, quelques-uns ici, ils ressemblent à quoi? Est-ce qu'ils sont impeccables? Es-tu de ces gens maniaques qui tiennent à ce que ça paraisse pas que le livre ait été lu après qu'il l'ait été? Est-ce qu'ils sont raturés? Est-ce qu'ils sont cornés? Est-ce qu'ils sont annotés?
Ils sont vampirisés, ils sont tout ça. Quand j'étais plus jeune, ma mère dit que je découpais des livres pour faire des travaux à la petite école, puis je collais des images des livres de mes parents. C'est vrai que je faisais ça. Puis ça faisait un bel effet devant le professeur, là. Donc, j'avais déjà peut-être une manière de vampiriser un peu les livres. Mais tant que j'ai lu, avant de commencer à faire le métier que je fais, puis à faire des chroniques de livres, je restais quand même relativement respectueuse. Puis j'avais un ami qui, dont on va parler tantôt, Jean Papineau, qui, lui, soulignait. Puis moi, je soulignais pas encore. Mais j'observais, puis lui, il soulignait très discrètement. Il mettait un petit point dans la marge. Mais ça m'intéressait de voir ce qu'il soulignait. J'observais, mais moi, je le faisais pas. Et maintenant, aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire des chroniques de livres, à me servir des livres pour mon travail, j'ai commencé à vraiment travailler autrement, à souligner parce que pour une entrevue, il faut souligner. Mais après ça, c'est devenu tellement nécessaire que si je souligne pas en lisant, c'est comme si je lisais pas. À tel point qu'à un moment donné, j'avais une tendinite dans l'épaule. Je me rendais compte que c'est parce que je soulignais trop. Mais je suis pas capable. Et je crois vraiment, tu sais, on dit qu'il y a un lien entre le cerveau et la main, mais je le crois vraiment. Et quand il y a une phrase qui me frappe, quand il y a une idée qui me frappe, parce que ça me frappe moi dans ma vie privée ou parce que ça me frappe pour une entrevue, je la souligne. Alors les livres sont souvent très 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 raturés. Je fais pas attention aux livres.
Même pour les romans, donc tu.
Oui. Les livres d'art, je vais faire attention. Les beaux livres, les livres qui sont. Mais sinon, je fais pas attention aux livres. Je les habite. Je me le permets. Je l'ai gagné, cette liberté-là.
Est-ce que tu leur es attaché? Est-ce que tu les prêtes volontiers? Est-ce que tu les revends après lecture? Est-ce que tu les donnes après usage?
Quand on est chroniqueur de livres, en ce moment, je suis pas chroniqueur de livres, mais je l'ai été pendant longtemps, tu reçois là des caisses de livres à toutes les semaines. Comment réparer votre cactus? N'importe quoi. Et puis un chef-d'œuvre de la littérature, n'importe quoi. c'est sûr qu'à un moment donné, ça s'accumule. Il y en a, tu peux même pas les donner tellement ça tente à personne de les avoir. Fait que, quand les livres sont possibles à donner, je les donne à des bibliothèques, à des organismes, à des hôpitaux. Quand ils sont impossibles, tu essaies de les apporter à la place où ils revendent les livres. Ça, c'est pour des livres qui arrivent que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas choisi. Les livres que j'ai rentrés, que j'ai choisis, que j'ai achetés, que j'ai voulu lire, qu'on m'a donné, qui font partie de ma vie, parce que c'est important. Quand tout à coup, ta bibliothèque est envahie de livres que tu n'as pas choisis, tu ne te reconnais plus. Moi, quand je vois ma bibliothèque, c'est un peu comme un miroir. Et tout à coup, tu ne te reconnais pas, tu regardes cette bibliothèque-là, puis c'est celle des derniers arrivages, c'est plus la tienne. Alors oui, j'en élimine, j'en prête, je prête beaucoup, surtout, je les fais circuler, je les fais beaucoup circuler. Mais les livres intimes qui m'appartiennent vraiment, puis qui me parlent de moi, puis je te réponds longtemps, hein. Il y a des invités qui répondent trop court, puis il y en a qui répondent trop long. Je connais tous les cas de figure. Ceux-là, maintenant, j'hésite à les prêter. J'hésite à les prêter, quitte à les racheter. Quitte à les acheter aux gens, si je trouve ça important. Parce que quand ils ne sont plus là, c'est comme s'il manquait un morceau de moi-même.
Est-ce que tu es une lectrice fidèle? Est-ce que tu lis systématiquement tout ce que certains auteurs publient ou tu y vas plutôt par coup de cœur puis par nouveauté?
En ce moment, je ne sais pas parce que avec le travail que je fais en ce moment, les lectures font beaucoup partie de mon travail. Mon emploi du temps appartient beaucoup à mon travail. Mais plus jeune, j'étais vraiment le genre de personne, quand je découvrais un auteur, que je l'aimais, mais je lisais l'œuvre au complet. Alors, à un moment donné, bon, j'ai comme à peu près toutes les filles de ma génération, j'ai eu un coup de foudre quand j'étais adolescente pour Colette. J'ai lu tout Colette. John Dos Passos, écrivain américain qui a beaucoup écrit sur la fondation de Manhattan de New York. J'ai lu toute l'œuvre de John Dos Passos. Uwe Johnson, c'est un auteur allemand. J'ai lu toute l'œuvre de Uwe Johnson. D.H. Lawrence, j'ai lu tout D.H. Lawrence. Je lisais au complet. Quand j'aimais un auteur, je lisais son œuvre. Maintenant, peut-être que c'est une question de temps. Je serais curieuse de voir livrer à moi-même si je le ferais, peut-être.
Mais est-ce qu'il y en a que tu suis des auteurs vivants dont tu achètes systématiquement toutes les œuvres tous les ans ou tous les 18 mois lorsque ça sort?
Mais je sais pas, on va parler d'Edith Wharton, par exemple. S'il y a un livre d'Edith Wharton qui est traduit ou même qui paraît en anglais que j'ai pas, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais je vais l'acheter.
Alors, tu as triché un peu. On t'avait demandé de choisir 10 livres. Tu as fourni une liste dans laquelle il y avait une vingtaine de livres et en coulisses, tu m'en as ajouté des nouveaux.
J'en ai enlevé.
Merci. Alors, c'est un exercice que tu as trouvé déchirant de choisir 10 livres?
Oui, absolument. Puis j'ai changé d'idée 50 fois. Puis si on avait encore 10 minutes, là, je changerais aussi. Il faut voir qu'on respecte ce qu'on a dit tout à l'heure, l'autre côté, mais je ne vous avais pas vu encore. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des livres qui, c'était sûr qu'ils allaient être là. Il y a des choses qui s'imposent, mais il y a des choses, ça dépend de tellement de choses. Oui, c'est difficile, c'est très difficile, oui.
Alors, on commence par le commencement, La Comtesse de Ségur.
Comme tout le monde. Hein?
Un bon petit diable, Les malheurs de Sophie.
Oui.
Tes premières lectures, comme beaucoup de petites filles.
Oui, quand j'étais enfant, ça m'est arrivé très vite, le goût de la lecture. Mes parents y sont pour beaucoup. Il y avait des livres à la maison. J'ai été exposée à ça. Il y a des gens qui découvrent les livres alors qu'ils ne sont pas amenés aux livres. Moi, j'ai été chanceuse. Je fais partie des gens. J'étais élevée dans une maison où il y avait des livres. Mes parents aimaient lire. Et mon père lisait beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais amoureuse de mon père. Alors, déjà là, c'était un modèle extraordinaire. Et à un moment donné, ils ont fait un voyage. Je ne sais pas s'il était vraiment long, mais il m'est apparu assez long. Et on s'était fait garder, puis ce n'était pas tout à fait ça. Et ma mère m'avait dit en partant, « Lis, quand on lit, on s'ennuie jamais. » Mais c'est tellement vrai. C'est une des plus belles choses qu'on m'a jamais dites. Alors, comme beaucoup de gens, La Comtesse de Ségur, j'ai aimé ça. J'ai lu La Comtesse de Ségur au complet.
Des livres d'action. Sylvie, hôtesse de l'air, et d'autres Sylvie.
C'est pas des livres d'action, ça, Guy? T'en as jamais lu?
Ben non. mais, c'était écrit par René Philippe. Et ça m'a jeté par terre parce que c'est une série, évidemment, pour les jeunes filles. Et l'auteur était un homme. C'est un peu comme si on m'avait dit que Bob Moran avait été écrit par une femme. J'étais sidérée. Toi, tu étais consciente de ça quand tu lisais Sylvie?
Bien, c'est-à-dire que je ne pensais pas à ça. Je pensais à Sylvie. Tu sais, je devais avoir 10 ans quand je lisais ça. Mais c'est un peu l'équivalent, il doit y en avoir dans la salle ici qui en ont lu peut-être des... c'était un peu l'équivalent, les gars lisaient les Bob Moran, c'est une époque, c'est marabout. Puis moi, comme beaucoup de filles de cette génération-là, Sylvie, hôtesse de l'air, c'était le premier de la série. Elle était formidable, cette fille-là. Elle était mariée avec Philippe Gambier, je me rappelle du nom de son mari. Il conduisait une Opel. Elle avait un esprit, elle était spirituelle. Oui, elle voyageait, dans ce sens-là, il y avait de l'action. Elle était hôtesse de l'air, à l'époque, c'était la fin du monde, elle était hôtesse de l'air. C'était extraordinaire, elle allait partout dans le monde. Puis, elle avait, je sais pas, j'étais droguée de ces livres-là. Droguée, c'est vraiment le plaisir de lire au-dessus de toute chose. Là, tu sais, je lisais par... La lumière de la salle de bain qui rentrait jusqu'à mon lit, en cachette de mes parents. Vraiment, là, vouloir lire plus que vouloir n'importe quoi, c'est à travers les Sylvie que je l'ai découvert.
Donc, c'était le...
Alors, je vois beaucoup à ce monsieur.
C'était l'histoire. C'était l'histoire.
Il devait raconter des bonnes histoires, puis c'était Sylvie.
Alors là, on a une section que tu as appelée « Les amis ». Et là-dessus...
Là, on s'en va plus, on sort de l'enfance.
Oui.
On saute plein d'années.
Alors, le premier ouvrage, c'est l'auteur, c'est Paul Morand, et c'est l'allure de Chanel, l'ouvrage. Ma question, c'est, est-ce que tu as l'édition originale de 76 avec les illustrations de Karl Lagerfeld?
Non, malheureusement, est-ce que tu pourrais me la donner en cadeau?
Oui. pas ce soir.
Je suis extrêmement d'accord pour l'avoir. Non, j'ai une édition qui est de 1976, d'ailleurs, il a été réédité là quand il y a eu le film de Chanel. Ils ont réédité dans un autre format ce livre-là. Moi, j'ai quand même une édition qui n'existe plus, là, mais j'ai pas la belle édition illustrée par Chanel. C'est avant d'être le livre, c'est Chanel. Dans les livres sur Chanel, c'est pas par Paul Morand que je découvre Chanel. À un moment donné. Dans la vie, c'est trop long, tu as juste à me dire, on va passer à un autre appel.
C'est bon. Et tu commences à peine.
Non, mais à un moment donné, à un certain moment, je me posais beaucoup de questions sur des choix à faire dans la vie, des décisions à prendre, une période de questionnement. Puis quelqu'un m'avait dit, oui, mais choisis-toi un modèle. Puis, pour aucune raison, c'est le nom de Chanel qui m'est venu en tête. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais comme le nom de Chanel m'était venu en tête, j'ai senti une responsabilité. Puisque le nom m'était venu, je suis allée voir du côté de Chanel. Et là, j'ai lu tout ce qui pouvait se trouver sur Chanel. Des livres sur Chanel, ça doit être haut comme ça. Puis s'il en sort un demain, je l'achète. Ta question, n'importe quoi sur Coco Chanel. Et là, bon, d'abord, elle est là. Elle s'est inventée une vie quatre fois, alors, entre ce qu'elle a raconté, ce qu'on a raconté sur elle. Mais j'ai découvert, en fait, c'était le modèle qu'il me fallait. J'ai découvert, on le dit de plus en plus maintenant, c'est de plus en plus reconnu, qu'elle est une des grandes artistes du 20e siècle, que sa mode, c'est une architecture, que elle est aussi créatrice. Et elle a une démarche personnelle et une conception du monde, comme n'importe quel sculpteur, architecte ou peintre de son époque. D'ailleurs, plusieurs étaient prêts à le reconnaître. C'est une femme qui avait une vision du monde, qui a imposé sa vision du monde aux autres en n'imposant rien, en faisant des choix pour elle-même. En fait, la clé avec Chanel, c'est que, d'abord, c'est la clé du vêtement, c'est que le vêtement est une architecture et que tout part de l'épaule. Et la clé pour Chanel, c'est elle. Moi. Si moi, ce qui me convient à moi. Alors, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour s'habiller elle, pour qu'elle, elle soit confortable, pour qu'elle, elle mène la vie qu'elle voulait mener. Et cette manière de concevoir les choses strictement à partir d'elle-même a fait qu'elle a développé un système architectural du vêtement et une philosophie du vêtement qui transcende les âges. Karl Lagerfeld, qui succède à Chanel, décline encore. Elle mourait, ça voyait ce qu'il fait. Chanel ne peut pas supporter une femme entravée par des vêtements. Elle ne peut pas supporter une femme entravée par des chaussures importables. Une femme écrasée par un sac à main trop lourd. Pour elle, c'est très important la liberté du corps. Une femme doit pouvoir courir, mettre son paquet de cigarettes dans sa poche et courir pour attraper l'autobus pour aller rejoindre son amant. Ça fait partie de la philosophie de Chanel. Alors, elle n'aimerait pas ce que Karl Lagerfeld fait, mais il continue à décliner le modèle Chanel. Et Moi, entre autres, bon, je m'habille toujours en noir. Quand j'ai commencé à faire de la télé, je me suis dit, je pourrais jamais faire ça. J'haïs ça, m'habiller, ça va pas. Les vêtements et moi, ça va pas du tout, du tout, du tout. Et c'est dans Chanel que j'ai trouvé la réponse. En fait, elle a pas dit, habillez-vous toujours en noir. Mais d'abord, toute sa philosophie est inspirée de l'uniforme. Donc, allons-y pour l'uniforme. Et puisque c'est moi, ben allons-y comme moi, je me sens. Alors oui, je dois beaucoup, beaucoup à Chanel. Et dans le livre de Paul Morand, c'est elle qui parle. Il a fait parler. Et c'est pas la vie romancée de Chanel, romancée par Chanel elle-même, ou par l'auteur qui a voulu enjoliver Chanel. C'est la parole de Chanel, les maximes de Chanel, les idées de Chanel, la philosophie de Chanel. Alors, si elle vous intéresse, moi, je pense que c'est dans le livre de Paul Morand qu'on la trouve la plus vivante. Et puis, si je peux-tu continuer 2 minutes? Elle a été un modèle aussi. Je parle pas si longtemps comme ça de tout le monde. Mais, cette femme-là, elle est morte à 86 ans. Elle trouvait que les maisons avaient de l'argent Chanel à cause du Chanel numéro 5. Elle trouvait les maisons encombrantes. Alors, elle vivait au Ritz, à Paris. Elle est rentrée dans son appartement du Ritz après avoir travaillé toute la journée, après avoir épuisé toutes les filles qui travaillaient autour d'elle. C'était un tyran. Elle s'est couchée, puis elle ne s'est jamais relevée. Elle est morte pendant son sommeil en rentrant du travail à 86 ans. Ça, si ce n'est pas un exemple extraordinaire de vitalité qui fait que quand on se sent fini à 40 ans, tu penses à Chanel. Et puis, j'en ai encore pour 2 minutes, parce que peut-être que vous aussi, un jour, vous allez vous sentir déprimé par votre âge, puis vous penserez que vous soyez un gars ou une fille, vous penserez à Chanel. Pendant la guerre, elle a eu un amant allemand. On l'a lourdement fait payer ça, on comprend. Elle s'est exilée pendant 15 ans. Elle a fermé sa maison sur la rue de Cambon, gardé la maison Chanel. Elle est partie et vivait de son parfum, 15 ans. Quand Dior est arrivé avec le new look, elle trouvait ça affreux, dégueulasse. Ça l'écœurait, ces crinolines-là. Elle a dit, il faut que je revienne. Elle avait à peu près 71 ans. Nous, ce qu'on connaît de Chanel, c'est le travail d'une femme de 71 à 86 ans. Ce qu'elle a fait avant la guerre, on ne l'aurait jamais vu, on ne l'aurait jamais su. Donc, Chanel, c'est une femme de 71 ans qui le fait. Ah, ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Ça change toute ma perspective de la vie. Merci, Chanel.
Donc, dans ce que tu nous as dit, c'est que, dans le fond, dans ce livre-là, c'est la personne qui t'intéressait. Dans le prochain, c'est plutôt l'inverse. C'est « Mémoire imaginaire de Marilyn » de Norman Mailer. Et là, c'est l'inverse. C'est pas tant Marilyn que l'auteur, que Mailer qui t'a intéressé.
Je ne vais pas parler de Marilyn aussi longtemps. Là. C'est par Norman Mailer. J'aurais pas pensé que j'aurais été à ce point-là intéressée par Marilyn Monroe. Elle le mérite. Peut-être que plusieurs d'entre vous savent déjà combien elle est émouvante. Ça a dû vous arriver à vous aussi. Moi, ça m'est arrivé par lui, parce que je la voyais pas, Marilyn. Je la voyais comme tout le monde. Quand elle est morte, j'ai découpé, puis dans mon journal, j'ai écrit « Marilyn est morte ». Mais lui, Norman Mailer, le grand écrivain américain, a écrit un livre au jeu. C'est Marilyn qui parle.
Comme dans l'autre?
Non,
comme
parce que Paul Morand, il parle avec Chanel.
OK, c'est pas
mais
jeu.
Non, lui, Norman Mailer, c'est pas du tout... C'est totalement atypique de l'œuvre très virile de Norman Mailer de devenir Marilyn Monroe et de dire « je, Marilyn Monroe ». Mais je pense qu'il y a eu, entre ce que Marilyn était à l'intérieur d'elle-même, une femme très tourmentée, très mal dans sa peau finalement, paradoxalement très mal dans sa peau. Chaque apparition publique pour elle était un calvaire. Mal dans son corps aussi, d'une certaine façon, paradoxal aussi. Et il y a quelque chose où je crois qu'il fait partie de ceux qui la font vivre. Alors, j'ai découvert Marilyn là-dedans. J'ai découvert aussi Norman Mailer, que j'ai eu le plaisir d'interviewer plus tard. Mais elle vit là-dedans, Marilyn. C'est un bon livre.
Une autre amie, Berthe Morisot.
Oui, Berthe Morisot.
Alors, l'ouvrage, c'est Dominique Bonnat qui a écrit, ça ne s'invente pas, Berthe Morisot, le secret de la femme en noir.
Oui, Berthe Morisot, elle s'habillait toujours en noir. En fait, la catégorie dont on parle ici, qui inclut Chanel, qui inclut Marilyn, qui inclut Berthe Morisot, ce sont des femmes que j'ai découvertes à travers les livres. Marilyn, c'est à cause du livre de Norman Mailer. Chanel, je vous ai raconté comment, mais c'est dans les livres que j'ai appris qui elle était. Et Berthe Morisot, moi j'étudie en histoire de l'art, c'est une peintre impressionniste, contemporaine de Monet, de Renoir, de tous les peintres impressionnistes, elle fait partie du groupe, mais elle a eu une carrière moins spectaculaire parce qu'elle a eu une vie de femme, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Mais c'est par les livres que j'ai découvert la personne Berthe Morisot. Alors, et elle aussi, dans des moments difficiles, Marilyn aussi pour d'autres raisons que je ne raconterai pas ici, et Berthe Morisot, tu lis un livre, tu lis une biographie de Berthe Morisot tout à coup, puis tu te rends compte que des choses qui sont difficiles pour toi, elle les a vécues, qu'elle te ressemble à certains points, qu'elle a un mystère. Pourquoi est-ce qu'on écrit sur elle aussi? C'est parce qu'elle était elle était modèle, elle était peintre, mais elle a été modèle pour Manet. Manet, c'était son beau-frère. Elle a marié après ça le frère de Manet. Tout le monde s'interroge, pourquoi Berthe Morisot? Qu'est-ce qui s'est passé entre Manet et Berthe Morisot? Pourquoi Berthe Morisot a marié le frère de Manet? Les peintures dans lesquelles Berthe Morisot est modèle pour Manet, si vous les connaissez, si vous allez dans l'œuvre de Manet, vous regarderez parmi les plus belles peintures, pièces de Manet, œuvres de Manet, c'est souvent Berthe Morisot qui est modèle. Et c'est l'histoire d'une femme qui fait son métier à une époque qui n'est pas très favorable, puis qui se démène avec ça, avec avoir un métier, vouloir avoir une famille et les états d'âme d'une femme tourmentée. Elle est très, très intéressante. C'est une de mes amies. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais il y a des livres pour nous la faire découvrir.
J'ai fait un clin d'œil à tes habitudes en parlant du secret de la femme en noir. Tu as apporté un petit livre qui est un peu une vengeance de ta part. Ça s'appelle « Why do architects wear black? » Pourquoi les architectes se vêtent de noir?
J'ai trouvé ça au Centre canadien d'architecture, au Centre canadien d'architecture. Ils ont une librairie extraordinaire. Si vous aimez, vous devez la connaître, certains d'entre vous. Si vous aimez l'architecture, les arts visuels, ils ont là des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Et il y avait, près de la caisse, la dernière fois que je suis allée, ce petit livre extraordinaire, évidemment, c'est sûr que ça m'intéressait. Alors, ils ont demandé à plusieurs architectes connus, que ce soit des Américains, des Anglais, des Allemands, il y a beaucoup d'Allemands là-dedans, pourquoi ils portaient... On s'est connus, il y a beaucoup d'architectes qui s'habillent en noir. Alors, chacun répond avec... c'est écrit, en fait, chacun répond avec sa propre calligraphie, sa propre écriture à la main, pourquoi ils s'habillent en noir. Il y a autant de réponses à cette question-là qu'il y a d'architectes présents. C'est très intéressant, c'est très sympathique. Des fois, c'est lumineux. Puis quand on s'habille tous les jours en noir, c'est très agréable à lire.
Alors, une dernière amie, dans un livre de Peters ou Peters, on n'était pas certain, « Ma sœur, mon épouse, biographie de Lou Andreas Salomé, une intrigante russe ».
Oui, c'est ça. On les a mis dans la catégorie des amis parce que, comme Berthe Morisot, comme Chanel, comme Marilyn, c'est plus que ces femmes-là, pour moi, ça a été plus que le temps d'un livre. C'est des gens, ce qu'elles ont été et la manière dont les livres ont dit ce qu'elles ont été, moi, ça m'a aidé à trouver des réponses pour moi-même et à me définir. On se définit à travers les livres. Ça m'a aidé à me comprendre, à me connaître et à me définir. Et ça, c'est plus jeune. Elle est arrivée avant Chanel, avant les autres. C'est un cadeau que j'ai eu, c'est en 1972, par un grand lecteur de Nietzsche. Et Lou Andreas Salomé, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, elle était psychanalyste, elle était proche de Freud, elle était dans le premier groupe des psychanalystes. Si on voit les premières images des sociétés de psychanalyse, elle est toujours assise pas très, très loin de Freud. Elle est russe, elle arrive assez jeune en Europe. Elle était proche de Frédéric Nietzsche et de Rilke, le poète, qui étaient tous les deux assez amoureux d'elle. Elle a eu une influence énorme sur chacun d'entre eux. Elle transporte tout aussi le bagage d'être une Russe, tout l'intérêt qu'elle a pour la psychanalyse qui commence, toutes les relations qu'elle a eues avec Nietzsche, avec Rilke. Alors, en découvrant des choses sur elle, ça m'a permis de m'initier à la psychanalyse. Ça m'a permis de connaître Freud, et Freud, oui, Nietzsche aussi, sans rentrer directement par la grande porte ni de Nietzsche ni de Freud, et de rencontrer une femme qui a un destin exceptionnel et qui a pratiqué aussi la psychanalyse et qui a été, qui a laissé aucun des hommes qui l'ont rencontré indifférent. C'est toujours intéressant à lire.
On quitte la catégorie amis pour une catégorie qu'on n'a pas pu décrire à sa juste valeur. Donc, un ouvrage de Laurent-Michel Vacher, Dialogue en ruine. C'est pour toi un incontournable dans ta bibliothèque. Et ici, c'est assez particulier comme style. Ça s'inscrit vraiment dans une tradition philosophique très vieille. L'auteur, Vacher, consigne, écrit des dialogues, des conversations qu'il a eues avec un philosophe montréalais qui s'appelle Jean Papineau. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme Platon qui a écrit ce que Socrate avait dit, puisque Socrate n'a jamais rien écrit. C'est à peu près pareil, c'est-à-dire que Vacher a écrit ce que Papineau disait.
Oui.
Parce que Papineau n'a presque pas écrit, sinon pas du tout. Et donc, pour toi, c'est qui Jean Papineau? Puis c'est quoi cet ouvrage-là?
Jean Papineau, on en a parlé, en fait, quand je vous ai montré le livre de Lou Andreas Salomé, c'est 1972, c'est Jean Papineau qui me l'avait offert. Je parlais de lui tout à l'heure quand je disais que Jean Papineau soulignait. Jean Papineau, c'était mon meilleur ami, il est décédé maintenant. Laurent-Michel Vacher est décédé aussi. Jean Papineau, je l'ai rencontré quand j'étais étudiante au cégep. On a vécu ensemble longtemps. C'est resté mon meilleur ami. On a étudié ensemble au cégep, on a étudié ensemble à l'université, puis on est resté amis toute la vie. C'était un remarquable philosophe, les gens qui l'ont connu vont le dire, qui a été aussi professeur de philosophie. C'était une pensée lumineuse. Laurent-Michel Vacher, vous le connaissez peut-être, c'est un philosophe français qui est arrivé au Québec, je dirais, au début des années 70 ou à la fin des années 60. Lui a écrit beaucoup, Laurent-Michel Vacher. Et il était le meilleur ami de Jean Papineau. Et tous les gens qui connaissaient Jean Papineau disaient toujours à Jean, qui était un esprit extrêmement brillant, « Pourquoi t'écris pas, Jean? » Les autres écrivaient, « Pourquoi t'écris pas, Jean? » Et Jean n'a jamais écrit. Il l'aurait peut-être fait s'il n'était pas mort à 45 ans. S'il y avait parmi vous des collègues de Jean Papineau ou des étudiants de Jean Papineau, vous sauriez quelle personnalité lumineuse, brillante et non conventionnelle il pouvait être. Et Laurent-Michel Vacher est décédé aujourd'hui. Jean Papineau est mort quelques années avant lui. Ça a été pour Laurent-Michel Vacher, qui était déjà malade, mais qui, lui, vivait encore, une perte immense. Et quelques mois après la mort de Jean Papineau, quand, j'allais dire quand l'âme est encore là, mais vous avez tous perdu quelqu'un, puis vous savez que la mémoire vive, aiguë, de la présence de la personne, ça nous accompagne toute la vie. Mais il y a un temps, dans les premiers jours, où la personne est encore là. Bref, on a l'impression qu'on peut l'attraper. Ça dure un certain temps, c'est furtif ce moment-là. Et dans ces jours-là, Laurent-Michel Vacher, il a écrit des c'est ça qu'il appelle des dialogues en ruine. Il a écrit les conversations qu'ils avaient tous les deux. Évidemment, c'est sous forme écrite, mais il a attrapé l'âme de Jean Papineau, sa pensée, son indépendance d'esprit. Et moi, cet ami-là, qui me manque tellement dans la vie, le livre est toujours présent, pas loin, dans ma bibliothèque. Et je trouve que parmi tout ce que les livres nous donnent dans la vie, de nous faire connaître des amis comme Chanel, comme Berthe Morisot, comme Lou Andreas Salomé, qu'on rencontrera jamais, ou alors d'avoir un ami qui est mort mais qui reste vivant parce que quelqu'un a attrapé son âme et sa pensée dans un livre, ça, c'est au-delà d'un livre pour moi. C'est une trace, c'est la trace de la présence de Jean. C'est un super beau livre. Ça s'appelle « Dialogues en ruine ». C'est publié aux éditions Libère. C'est ici. Alors voilà. Oui, c'est un livre à part des autres. On va le mettre là, d'ailleurs.
OK. Ce que j'en ai vu, c'est que ça se passe dans l'autobus, non?
Ils parlent partout, eux autres. Autres, ils étaient toujours en train de parler. Ils parlent au petit extra. Ils marchent sur la rue Saint-Denis. Dans ce temps-là, ils allaient au passeport. Ils allaient dans une boîte qui est fermée sur Saint-Denis. Ils sortent du cégep, puis ils sont partout. Ils sont partout.
Alors, Edith Wharton, tu nous as dit que c'est un auteur que tu lis systématiquement.
Oui.
Chez les Heureux du Monde. En anglais, l'original, c'est The House of Mirth. Et aussi Le Temps d'innocence,
oui.
The Age of Innocence. C'est l'univers des femmes écrivains que tu aimes particulièrement. Edith Wharton, enfin, moi, tu me l'as fait découvrir, je ne la connaissais pas. C'est la première femme qui a gagné le prix Pulitzer en 1921. Et ses ouvrages se passent dans la très haute société new-yorkaise. Tu apprécies l'ensemble de l'œuvre?
Oui, c'est quelqu'un que j'aime lire. C'est le plaisir de lire. J'aime ça lire des romans d'Edith Wharton. Je les ai lus pour la plupart en traduction en français, pas dans l'original anglais, parce que c'est fin du 19e, début 20e. Même si elle est américaine, il y a des auteurs américains très contemporains, je pourrais les lire en anglais, mais elle, j'ai préféré la lire en traduction. C'est un bon auteur, elle est très bonne. Et moi, j'aime beaucoup l'époque qu'elle décrit. Elle est proche de Henry James. D'ailleurs, c'était une amie d'Henry James. Mais autant des fois, je peux trouver que l'univers d'Henry James est séduisant, mais un peu rébarbatif. J'ai pas ce problème-là avec Edith Wharton. Et je suis très curieuse de cette société, cette haute société new-yorkaise, très, très, très francophile. D'ailleurs, elle est morte à Paris, elle. Très francophile, qui avait beaucoup, beaucoup, pourtant, il n'y avait pas l'avion, mais qui avait beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec la France, avec l'Europe. Et elle saisit l'air du temps de cette société-là, de cette époque-là. Martin Scorsese a fait un film de L'âge de l'innocence, The Age of Innocence. Vous l'avez peut-être vu avec Daniel Day-Lewis, avec Winona Ryder, qui est inspiré de... Pour les Américains, c'est une auteure très importante et c'est un grand plaisir de lire, puis de lire ses œuvres. Puis à ce moment-là, on connaît, il y a un portrait de société, puis ce qu'elle adore raconter, c'est des gens qui sont nés dans la très haute société, le père meurt, ou alors ils sont ruinés, et ils ne peuvent plus être dans la haute société, alors ils travaillent comme dames de compagnie, ils sont toujours en périphérie, et ça leur fait des vies misérables, et elle est très, très... elle a vraiment beaucoup de talent, oui. Moi, j'aime bien la lire.
Est-ce que c'est elle qui a été décorée pour le travail qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ou je confonds avec...
Je ne sais pas.
OK.
Si c'est le cas, je suis désolée.
Non, ben non, c'est moi. Alors, Julien Green, Les pays lointains.
Oui.
La première fois que tu m'en as parlé, je m'en souviens très bien, tu étais comme dans un autre monde, tu étais transportée. T'sais. Qu'est-ce qui te touche autant dans cet ouvrage-là?
Est-ce que c'est un livre magique? C'est le premier d'une trilogie, ce livre-là. Est-ce que c'est un livre magique ou est-ce que pour moi, quand je l'ai lu, ça a été magique? Je ne sais pas. Il faudrait que je compare. Je ne sais pas si vous connaissez Julien Green, c'est un cas à part. Il est né de parents américains, tous les deux. Il est né en 1900 et est mort en 1998. C'est un homme qui a vécu très, très longtemps, qui a beaucoup écrit des essais, des lettres, des correspondances, mais qui a une œuvre romanesque. Il était membre de l'Académie française, mais ses parents étaient des Américains. Et il naît donc en France, il vit toute sa vie en France, et sa mère était une sudiste, comme dans la guerre de sécession, comme les Yankees, comme les sudistes. Et dans Les pays lointains, qui est une œuvre à part dans l'œuvre de Julien Green, qui était un écrivain assez mystique, qui s'est converti au catholicisme et qui reste un écrivain assez mystique, et puis qui traite beaucoup d'homosexualité. Mais dans ça, là, il raconte l'histoire d'Élisabeth, qui arrive à Savannah, en Géorgie, parce que, justement, comme dans les romans d'Edith Wharton, ils ont perdu leur fortune en Angleterre. Et là, elle doit s'adapter à ça. Et je ne sais pas comment ni pourquoi. Est-ce que c'est parce que lui a capté quelque chose à travers sa mère, qui était une sudiste, qui vivait là, qui fait que quand on lit ça... Moi, j'étais presque en transe quand j'ai lu ça. Je suis rentrée là-dedans, j'avais le temps. J'ai l'impression vraiment d'avoir été une sudiste, que quand la guerre de sécession est arrivée, j'étais pas du tout d'accord avec les Yankees. En même temps, j'étais pas esclavagiste. Il y a tout l'univers dense, il fait chaud là. C'est très mystérieux. La végétation est très, très opulente. On ne comprend jamais tout à fait ce qui se passe. Parce que les Noirs sont très, très présents. Les Noirs travaillent au champ. Les Noirs font de la couture dans le grenier. Les Noirs s'occupent des enfants. Les Noirs font à manger. Les Blancs vivent comme s'il fait chaud, là. Ils vivent comme s'ils étaient en Angleterre. Ils mangent en robe longue, des repas de je ne sais pas combien de couverts. Les enfants se promènent à travers tout ça. Il y a les plantations, il y a la végétation, les odeurs des fleurs, ça rend les gens fous. Puis à un moment donné, il y a toutes ces menaces de guerre qui se avec le Nord, avec il y a quelque chose qui vit là-dedans. C'est un roman extrêmement sensuel. Tout ce que j'évoque, où il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et puis cette réalité-là que nous, on n'a pas connue, c'est nos voisins, les Américains. La guerre de sécession, on sait ce que c'est, mais le drame, puis c'est pas un roman historique, là, c'est pas raconté comme le drame pour le peuple américain de cette division, de cette guerre meurtrière. Pas en tout, c'est l'histoire d'Élisabeth. Mais c'est à travers Élisabeth qu'on vit ça. Et je ne sais pas, moi, j'ai vécu ça presque comme une transe. J'ai vraiment aimé ça beaucoup. Et ça m'a fait connaître toutes ces choses-là, mais la sensualité du Sud, je sais pas, il l'a mise dans son livre. Je pense qu'il a réussi à capter quelque chose d'une époque qui n'existe plus parce que lui, d'une façon exceptionnelle, était français, mais le fils d'une mère sudiste. Et que ça a donné ce petit miracle-là. Alors voilà, ça s'appelle « Les pays lointains ».
On voit la brique dans l'édition originale.
C'est juste le premier tome. Hein?
Anglais, c'est ça. L'édition originale anglaise faisait 900 pages pour raconter une année. Et les 400 premières pages racontaient une seule semaine.
Mais c'est un choc pour elle d'arriver là. Honnêtement, la petite Élisabeth, quand elle est arrivée là, d'Angleterre, là, c'est un choc. Première semaine, c'était tout un monde.
Alors, 400 pages pour une semaine. Moi, ce que ça m'amenait à te demander comme question, c'est si tu avais entendu parler des thèses assez sérieuses de certains chercheurs américains qui tendent à montrer que la pratique de l'Internet nous nuit à notre concentration. Le fait qu'on lise des textes qui, par les hyperliens, constamment nous propulsent d'un texte vers un autre texte, ça créerait chez les lecteurs une incapacité de se concentrer, de rester longtemps, de lire des livres de ce format-là. Alors, est-ce que tu connais ça? Et puis, connais-tu le mouvement qui s'appelle le slow reading, qui est comme le parallèle du slow food?
Non, je n'avais pas entendu parler du slow reading. Je connais le slow food, mais je peux bien penser. Quand je lis pour mon travail, moi, je pense que je serais encore capable de lire, je ne sais pas si le livre me parlerait autant aujourd'hui, mais je pense que dans un laps de temps, ça dépend aussi comment, ce que la vie nous donne comme temps. Moi, j'ai toujours, je ne veux pas parler trop de moi, mais c'est un fait que ce livre-là, j'ai toujours travaillé très, très fort pendant des périodes, très comme faire du quotidien, par exemple, comme ce que je fais, tu n'as vraiment pas de temps. Mais après, par exemple, des années de télévision puis de quotidienne, j'ai pris une année sabbatique. Ou alors, je ne travaille pas pendant l'été. Puis là, le rapport au monde change. Tu n'es plus dans l'univers de l'Internet. Tu n'es pas dans le même univers. Tu es dans un temps à toi. Totalement. Et ça, je l'ai lu dans une période comme celle-là. C'est sûr que je n'ai pas quatre enfants qui attendent que je les fasse manger. Puis c'est une autre réalité. Est-ce que maintenant, les gens liront plus des livres comme ça? Je ne sais même pas s'ils peuvent les écrire. C'est un vieil homme, là. Julien Green, il est né en 1900. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre vraiment à la question, mais ce n'est pas du tout en rapport au... On n'est pas dans Twitter, là. Mais ça donne que si on a le temps de le lire, c'est l'immersion dans laquelle on est fait que nous aussi, on est là et que l'expérience qu'il décrit, on est capable de la vivre.
Anita Bruckner, L'Hôtel du Lac, Regardez-moi. Et tu aurais pu choisir l'ensemble de l'œuvre de
comme Edith Wharton, oui.
Oui, d'Anita Bruckner. Ces personnages te touchent?
Oui, moi j'aime beaucoup les romans. J'ai une sens. C'est vrai que souvent je vais aimer des romancières. Anita Bruckner, il y en a peut-être qui la connaissent ici, c'est une excellente auteure anglaise. Elle est historienne de l'art. En fait, elle écrit pas, je sais pas, elle a peut-être écrit sur l'histoire de l'art, c'est ce qu'elle enseigne, mais c'est une romancière qui a un style très particulier. La plupart de son œuvre, c'est un talent indéniable, un talent littéraire indéniable. La plupart de son œuvre porte sur les gens qu'on ne voit pas. Regardez-moi, moi, c'est le premier que j'ai lu. C'est une bibliothécaire. Ça fait longtemps que je l'ai lu, là, si je me trompe pas, dans une bibliothèque universitaire où je me souviens plus du contexte tout à fait, mais c'est celle que personne ne voit. Mais les gens qui sont invisibles comme ça, ils sont totalement des personnes. Et elle décrit des gens qui n'ont pas d'histoire, qui n'arrivent pas à imposer leur présence aux autres, qui voient bien les autres, puis qui sont bien conscients de qui ils sont. C'est un thème qui est récurrent dans tous ses livres. Et elle a vraiment... c'est le talent de psychologue. Il y a quelqu'un qui disait que c'est presque de la... comment on prononce ça, ce mot-là? Dissection. Quand on veut disséquer quelque chose, qu'est-ce que c'est le nom? Dissection. Il y a quelqu'un qui disait que ça allait jusque-là dans le travail d'Anita Bruckner. Mais oui, j'aime... Il y a les Portes de Brandebourg, il y a Sofka. Comme Edith Wharton, c'est une auteure que j'aime beaucoup lire.
Là, on aborde...
Très viril, mes affaires, hein?
Oui. Non,
mais les gars, c'est génial, moi.
On aborde...
C'est mon truc.
Non, mais là, c'est le segment sentiment amoureux de la
oui,
soirée.
Oui, sentiment amoureux, c'est plein de gars là-dedans.
Hey, Stéphane Zweig, Lettre d'une inconnue,
oui.
Sandor Marail, Métamorphose d'un mariage.
Oui. Et... alors, on est encore chez des romanciers. Ils n'ont pas écrit que des romans. Les deux auteurs... En fait, Stéphane Zweig... Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Zweig. Lui aussi, un peu comme Lou Andreas Salomé. Elle était russe, mais lui appartient à cette époque-là, Vienne. C'était le centre du monde, Vienne. À l'époque 1880, Vienne, les intellectuels étaient là. Tout ce qui était, du point de vue des arts, de l'architecture, la créativité à Vienne était très intéressante, fondamentale. Et après, il y a eu la guerre, il y a eu la montée du nazisme. Ces gens-là ont vu leur vie bouleversée. Freud, par exemple, s'est exilé en Angleterre. En musique, bon, vous les connaissez peut-être, il y a l'école de Vienne. Et Stefan Zweig fait partie de ces intellectuels, donc viennois, qui étaient là et qui a dû s'exiler aussi. Lui est parti dans plusieurs pays, en Angleterre aussi. Finalement, il s'est suicidé au Brésil. C'est un auteur qui sait très bien dire la complexité, et on est très proche de Freud, la complexité des émotions, des sentiments, de l'esprit humain. Et il a écrit des livres, c'est un homme, mais il sait aussi très bien dire ce que les femmes sont et ce que les femmes ressentent. Par exemple, la confusion des sentiments. Juste le titre. Vous savez ce que c'est, la confusion des sentiments? C'est merveilleux de prendre ça comme titre de livre. 24 heures dans la vie d'une femme. Je trouve que là-dedans, il y a un peu l'univers de Stéphane Zweig. Moi, je l'aimais beaucoup. Et récemment, ils ont recommencé à traduire et à republier des livres de Stéphane Zweig. Plusieurs petits livres qui étaient un peu plus mineurs. Celui-là, « Lettre d'une inconnue », c'est la plus belle façon que j'ai lue, moi, dans ma vie. Je l'ai lu récemment, celui-là, d'écrire un amour absolu. Si ça vous est déjà arrivé d'éprouver un amour absolu qui vous tord l'âme, qui vous empêche de vivre, de sentir que la manière dont vous aimez est tellement immense qu'il ne reste même plus de place pour vous-même et que le sentiment vous dévore tellement que c'est comme un empêchement au reste. C'est comme un blocage total dans votre vie. Lisez-le. Il l'a écrit, lui. Ça va vous libérer. Vous allez savoir que ça a été compris, ça a été vécu et ça a été dit. Et que c'est complètement dit, là. Ça va vous détendre. Le sentiment amoureux, selon moi, non, je ne dis pas dans l'absolu, je n'ai pas lu tous les livres, mais lui, en tout cas, il a réussi à le dire très, très bien. Cet inconnu-là, vous lirez. C'est pas long.
Alors, ce qu'on dit, Sandor Marail,
je ne sais pas, c'est un auteur, lui, je ne sais pas comment on le prononce, ça s'écrit Sandor Marail. Ça aussi, c'est traduit, c'est publié en livre de poche. C'est un écrivain hongrois. J'ai lu que ce livre-là de lui. Ça s'appelle « Métamorphose d'un mariage ». Lui aussi, même chose, même époque que Stéphane Zweig. La même chose, c'est en Hongrie. Les nazis arrivent. Ses livres ont été mis à l'index. Ses livres ont été brûlés. Il s'est exilé aux États-Unis. Il s'est suicidé, lui aussi. C'est une coïncidence. Mais non, je sais, c'est très gay, mon affaire. Lui, il a pas la, c'est pas la même chose que de capter le sentiment comme Stéphane Zweig. En même temps, ces gens-là nous amènent dans une époque, hein. Mais dans son Métamorphose d'un mariage, c'est un auteur qui est redécouvert maintenant, entre autres par les Hongrois qui en font presque un auteur culte. Il raconte le même mariage vu par trois personnes. Il y a trois parties. La femme du mari se sont séparées, parle de son mariage. Ensuite, le mari décrit le même mariage. Ça n'a rien à voir. Et la maîtresse décrit le même mariage. Ça n'a rien à voir. C'est un bon écrivain. C'est un portrait d'une époque aussi. Cette Hongrie-là, elle n'existe plus, comme le Vienne de Stefan Zweig n'existe plus. Mais à travers ces histoires, cette intelligence du texte, ça fait vivre des époques. Et le portrait d'un mariage en trois facettes, là, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un livre de poche en plus. On vient de vendre des livres. Là, mais...
Annie Ernaux.
Vous la connaissez, Annie Ernaux?
Passion simple.
Oui. Annie Ernaux, ça lui arrive de venir ici. Moi, je l'ai déjà interviewée. C'est une auteure française, elle est très bonne. Elle écrit souvent sur... Il n'y a pas plus pudique, en même temps impudique qu'Annie Ernaux. Ses livres sont toujours assez courts. Il y a une économie de mots. Elle parle souvent de sa famille. Elle a parlé de ses parents d'une manière très émouvante, en même temps avec une retenue, une sobriété, une économie de langage qui est assez remarquable. Et dans Passion simple, on est dans le sentiment amoureux. Je vais vous lire juste cette phrase-là. À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Ça dit tout. C'est bien bon.
Écoute, on va aborder là, dans quelques minutes un segment un peu plus lourd de tes lectures.
Ah donc, oui? Mais c'est pas assez lourd, ça.
Avant de faire ça... On va être très léger. On va parler des carnets d'une coquette raisonnable, dont l'auteur est Hélène Mirand.
Oui. Les carnets, c'est un livre qu'on demandait. Ce livre-là, il est extrêmement... excusez-moi, les gars, là. Après ça, voulez-vous, on va aller vers Rimbaud et Patti Smith? Parce que là, je sens que ça n'a plus d'allure. Là. Alors, les carnets d'une coquette raisonnable, c'est... je suis tombée en amour avec ce livre-là, j'ai dû le racheter 10 fois pour le donner en cadeau à toutes les coquettes que j'ai rencontrées, parce que une coquette en reconnaît toujours une autre. Les coquettes ont toujours quelque chose à se dire. J'en vois quelques-unes dans la salle. Les coquettes ne s'ennuient jamais. Cette femme-là, Hélène Mirand, elle est psychanalyste. Et elle amène la coquetterie pas de manière prétentieuse, pas du tout, mais comme un mode de vie. La coquetterie comme un mode de vie. Elle le fait avec beaucoup de subtilité et beaucoup d'envergure, puis en même temps, à travers ça, elle donne des conseils, mais les conseils sont charmants, un peu désuets, un peu d'une autre époque, mais par rapport à une façon de vivre, je vous jure que c'est une très bonne chose d'être une coquette. Vous allez... faire attention à vous jusqu'à votre mort. Elle va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie et vous ne vous ennuierez jamais. Alors voilà, c'est un livre absolument charmant et je crois qu'elle doit être une des seules psychanalystes à s'être attardée à ce qui apparaît tellement superficiel à tellement de monde. Et s'il y a des coquettes dans la salle, allez l'acheter le plus vite possible avant que ça soit épuisé. Parce que d'après moi, là, on peut dire que c'est vraiment passé inaperçu, ce livre-là.
Puis t'es sûr que les hommes n'ont...
Ben, à moins que...
Des coquets?
Non, je crois pas.
Il n'y a pas de coquets,
non? Oui, il y a sûrement des hommes coquets, mais c'est pas pour eux.
OK.
Non.
Alors donc, comme tu l'as annoncé...
Oui, on va aller chez Yann Karski.
Rimbaud.
On va aller chez Rimbaud.
Ouais.
Oui, allons-y. On va aller chez Patti Smith. Qui aime Patti Smith ici, il y en a? Rimbaud. Rimbaud, c'est un... Bon, Rimbaud, vous savez qui c'est. C'est un personnage hors norme, c'est un personnage de rebelle, c'est un poète qui a arrêté de faire de la poésie alors qu'il était tout jeune, puis qui est parti, puis qui est allé en Afrique, puis qui a vendu des armes, et puis il y a toute la vie de Rimbaud, il y a tout le personnage de Rimbaud. Puis il y a des tonnes de choses qui sont écrites, qui vont être écrites, qui sont en train d'être écrites sur Rimbaud. Dans les choses que j'ai lues sur Rimbaud, j'ai parlé un peu de certains livres où on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, une sorte d'osmose entre la personne qui écrit le livre et la personne de qui on parle. Alain Borère, puis ça, c'est des livres formidables, les petites encyclopédies découvertes Gallimard, sont des livres qui sont pas chers, puis sont des livres où il y a le texte, il y a l'image, et il y a non seulement ce que Alain Borer raconte sur Rimbaud, mais il y a plein de textes que d'autres ont écrits sur Rimbaud. Et il fait de Rimbaud, il s'intéresse beaucoup au Rimbaud aussi, qui n'est pas nécessairement le poète, mais qui est l'homme qui marche. Les gens qui croisaient Rimbaud plus tard dans sa vie disaient, tu sais, Rimbaud traversait des pays d'Afrique, vendait des armes. C'était un homme qui marchait tout le temps, qui montre le désir farouche de liberté, la liberté jusqu'à l'ultime. En fait, il se fait amputer une jambe, Rimbaud. Il meurt super jeune. Rimbaud libre, je veux travailler libre. Rimbaud dans une sorte de quête mystique. En tout cas, c'est l'analyse qu'il en fait. Mais son portrait de Rimbaud est très habité. Il s'intéresse à autre chose qu'à l'ami de Verlaine et qu'au jeune poète. Il accompagne l'œuvre dans tout son parcours. Je pense que la thèse qu'il défend sur Rimbaud vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête. Vraiment. Alors voilà, ça c'est le Rimbaud de À l'heure de la fuite. L'homme qui marche. La fuite de Rimbaud.
Et tu avais Patti Smith dans la même foulée.
Oui, parce que Patti Smith, pour ceux qui la connaissent, Patti Smith, il y en a qui l'appellent la marraine du punk. Ou Patti Smith, elle est toujours là. Les Français la redécouvrent de plus en plus. Elle est revenue, elle a recommencé à chanter. C'est une vraie rebelle, Patti Smith. Elle est photographe. Vous la connaissez ou pas? C'est comme Rimbaud. C'est des gens. Patti Smith, aujourd'hui, elle doit avoir 60 ans. C'est pas une croquette raisonnable, pas en tout. Elle fait aucune concession à rien. C'est une personne comme Rimbaud qui font aucune concession, ni à leur métier, ni au monde dans lequel ils appartiennent, ni à leur apparence physique, ni à leur créativité. C'est des gens qui vont jusqu'au bout. D'ailleurs, parmi tout l'univers de Patti Smith, il y a celui de Rimbaud aussi, fait partie de son univers à elle. Dans les gens, dans nos contemporains, des visages comme celui de Patti Smith, on n'en voit presque jamais. En ce moment, vous allez voir en français, il y a plein de choses qui font autour d'elle. Elle était très présente en France, puis on commence à rééditer les photos qu'elle a prises de Robert Mapplethorpe, les photos que Robert Mapplethorpe a prises d'elle. Elle a écrit un livre sur Robert Mapplethorpe, qui est un photographe américain important, avec qui elle a été amie très longtemps. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, Patti Smith.
Le titre, voilà. C'est Complete.
Hein? C'est Complete. Alors, quand des fois dans la vie, moi, je mène une vie beaucoup plus straite que celle de Rimbaud puis celle de Patti Smith, mais vraiment, là. Mais on n'a pas toujours envie d'être si straite que ça. Puis des fois, on a besoin de modèles qui vraiment s'en calissent de tout. Puis eux autres, ces deux-là, ils sont comme ça. Ça fait du bien.
Tu fais de la place. Alors, Agota Christophe, Le Grand Cahier. C'est la première partie d'une trilogie. La preuve et le troisième mensonge sont les deux autres. Et c'est la relation tout empreinte de cruauté de deux jumeaux qui ont 10 ans à la fin de la Deuxième Guerre. C'est un livre qui t'a complètement renversé. Puis tu as même une anecdote à ce sujet-là.
Bien, si j'ai mis le Grand Cahier ce soir, en fait, c'est pour raconter. Il y a longtemps que je l'ai lu. Je ne l'ai jamais plus retouché. Souvent, les livres dont j'ai parlé dans les chroniques, on dirait qu'une fois que la chronique est faite, c'est dur d'y retourner. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il ne nous appartenait plus. Mais, en fait, pourquoi je l'ai mis là, c'est que ce livre-là, à l'époque, Agota Christophe, c'est une grande auteure allemande qui était du côté de l'Allemagne de l'Est. Vous l'avez peut-être vu, le Grand Cahier. Ils en ont fait des pièces de théâtre ici. C'est un livre qui a été très lu ici, au Québec. Et moi, à l'époque, j'étais chroniqueur de livres à une émission qui s'appelle Bon Dimanche. Et ce livre-là, c'est un livre fulgurant. C'est l'histoire de deux jumeaux. C'est aussi un récit de guerre, mais à travers deux jumeaux. Et encore là, comme Annie Ernaux, avec une grande économie de mots. Il n'y a pas de complaisance dans le mot là-dedans. Et le livre m'avait tellement émue à l'époque que j'ai jamais pu le raconter dans ma chronique à la télévision. Ça m'est jamais arrivé, ça, sans me mettre à pleurer. En fait, à chaque fois que j'ai voulu raconter le livre d'Agota Christophe, l'émotion était tellement grande, ce qui se passe entre les deux jumeaux, que je me mettais à pleurer. Puis quand ça avait fait vendre beaucoup de livres, parce que on voit quelqu'un incapable de raconter un livre puis pleurer à la télévision, c'est pas tous les jours. Puis quand je voulais raconter aux gens pourquoi j'avais pas pu raconter le livre, je me mettais à pleurer. Mais maintenant, je l'ai lu depuis très longtemps, alors ça va. Mais c'est un livre qui est très puissant.
Mais alors, pourquoi il t'a touché? On va voir si
Non, mais ça fait longtemps que je l'ai lu. C'est pas là maintenant. Non, c'est un souvenir.
Un livre très proche de toi aussi, Anne Charney,
oui.
D'Aubride.
J'ai pensé vous parler de ça. Anne Charney, c'est ma belle-sœur. Je vais parler d'abord, c'est un récit de... Je ne sais pas pourquoi on est tellement dans la guerre, là, mais en tout cas, on y est avec elle. J'ai pensé vous en parler. Ça fait partie des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ce livre-là? Ce n'est pas un récit écrit... Il y en a des très beaux récits écrits par des gens qui ne sont pas des écrivains, qui ont vécu la guerre, puis qui ont écrit un livre qui raconte leur expérience pendant la guerre. Elle est écrivain, Anne Charney. Elle vit à Montréal, elle écrit à Montréal, elle a publié plusieurs livres, elle est traduite en français, c'est un excellent écrivain, elle est même représentée en France. Tout ça pour dire que c'est un témoignage vécu de quelqu'un proche de moi, mais c'est aussi le livre d'un écrivain. Ça a été son premier livre. Ils l'ont traduit à l'époque, c'était encore Jacques Langteau qui était chez VLB éditeur. C'était encore à l'époque de Jacques Langteau. Pendant la guerre, elle, il y en a beaucoup de gens comme ça. Dans sa famille, elle vient d'une famille assez aisée, assez intellectuelle en Pologne. Et ce qu'ils ont fait, eux, sa famille proche, sa famille un peu plus éloignée, sa tante, et des gens de la même petite ville, ils ont été cachés dans le grenier d'une ferme. Ils sont restés là pendant des années, tout un groupe. Cachés par des Polonais qui ont accepté de les cacher pendant, je ne me souviens plus maintenant du nombre d'années exactes, mais ce n'est pas 2 semaines. Ils ont passé la guerre cachés dans ce grenier-là. Quand ils sont sortis de là, ils ont échappé. Ils n'ont pas été trahis. Il n'y a personne qui les a dénoncés. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été mis dans les trains de bestiaux. Ils n'ont pas été envoyés à Auschwitz. Ils ont passé la guerre dans un grenier. Quand ils ont survécu tous. Quand ils sont sortis de là, ils n'étaient même pas capables de se tenir debout, tellement ils avaient passé d'années courbés dans un grenier. Mais ils ont survécu. Elle raconte cette histoire-là, elle raconte qui ils étaient avant, ce qui leur est arrivé, comment ça a été après. Puis après ça, elle est déménagée à Montréal avec sa mère, avec sa tante. C'était des gens qui étaient assez à l'aise avant, qui étaient des intellectuels. Sa mère, qui était une femme brillante, très, très scolarisée, tenait un dépanneur dans un building. Tu sais, les dépanneurs dans des buildings, tu descends en bas, tu achètes tes cigarettes, tu achètes tes tablettes de chocolat. A travaillé comme une folle toute sa vie pour que sa fille puisse étudier. Sa fille a un doctorat. Elle étudie à McGill. Après, ça, elle est allée étudier à la Sorbonne. Elle a fait une thèse sur Marcel Proust. Elle est devenue écrivain. Ils ont vécu ici. C'est des gens qui sont proches de nous. Ce sont des Montréalais. Et puis ça, c'est un bon livre chez un éditeur québécois. Alors, je ne comprends pas comment ça fait que je n'y ai pas pensé avant la fin de semaine dernière, mais je l'ai mis sur la liste de Guy. Ça fait partie de mes changements. Elle s'appelle Anne Charney et son livre s'appelle D'Aubride.
Un dernier ouvrage.
Un dernier?
Courte manche, je ne veux pas mourir seule.
Oui, je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai dû le prêter à quelqu'un.
Donc,
vous l'avez lu, il y a beaucoup qui l'ont lu ici.
C'est une autofiction réussie. Pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Là,
je ne sais pas pour les autres livres dont j'ai parlé. Je ne suis pas certaine que dans la salle ici, il y a des livres dont j'ai parlé que vous ayez lu peut-être ou pas. Mais dans le cas de Gilles Courtemanche, je pense qu'il doit y en avoir ici qui l'ont lu parmi vous. Sinon, lisez-le. Gilles Courtemanche, moi, dans mon travail, à travers Radio-Canada, le métier, c'est quelqu'un que j'ai vu pendant des années. Gilles Courtemanche, ça m'est arrivé de le croiser avec des amis communs, ça m'est arrivé de le croiser un soir. C'est arrivé un soir, avec un groupe, on se retrouve au même restaurant, dans la même maison. C'est une personnalité qui n'est pas facile d'accès, Gilles Courtemanche, que j'avais vu, côtoyé un peu, connu des gens qui étaient amis avec lui. Des fois, Gilles Courtemanche n'est pas toujours facile à aborder. Et là, puis on connaît son talent d'écrivain, un dimanche à la piscine à Kigali, d'autres choses qu'il a écrites, les textes qu'il publie dans Le Devoir. Mais Je ne veux pas mourir seule, son essai le plus récent. Je ne sais même pas si c'est de l'autofiction ou je ne sais pas, il n'est pas là pour le dire. Ou si c'est un témoignage, là, il n'aimerait peut-être pas que j'emploie ce mot-là. Mais quelqu'un d'abord quel talent d'écrivain, mais qui se met à nu, comme ça, en racontant un chagrin d'amour. Le mot fait fleur bleue, ça ne convient pas. Une peine d'amour. Et tout le dégoût qu'il a de lui-même. Mais c'est quelqu'un qu'on peut croiser. C'est quelqu'un qui est proche de nous. C'est quelqu'un qui a un rapport difficile avec lui-même, qui s'en veut pour certaines choses, impitoyable sur lui-même. Impitoyable. Absolument impitoyable. D'une dureté sans nom. Une force d'écriture, moi, ça m'a... D'autant plus que c'est quelqu'un que j'allais interviewer. C'est pas parce que j'allais l'interviewer que le livre m'a impressionné. C'est parce que c'est un livre très fort. Et pour arriver à parler de soi comme ça, ça prend... Peut-être qu'il n'aimerait pas aucun des mots que je dis. Moi, je dis courage. Une force de caractère. Un talent exceptionnel. En tout cas, c'est un grand livre. Ça s'appelle « Je ne veux pas mourir seul ». Il est malade, Gilles Courtemanche. Il le dit là-dedans. C'est très, très fort. Très bon. C'est très rare que quelqu'un aille aussi loin sur soi-même dans un livre.
Merci beaucoup.
Merci.
Si tu es d'accord, on peut faire une dizaine de minutes de questions. Ça te convient?
Ça me convient très bien.
Les micros sont là. Vous vous nommez et la règle du jeu, pour ceux qui me connaissent, c'est
oh,
que...
Oh, vous ouvrez les lumières!
La règle du jeu, pour ceux qui sont les habitués, c'est une vraie question, pas un monologue. Les micros sont devant, vous vous présentez et vous posez votre question. Je peux vous parler des livres dont on n'a pas parlé, si vous voulez. S'il n'y a pas de questions, on parle d'Hervé Guibert? Christian? T'es d'accord?
Oui, mais il y a quelqu'un...
Il y a une question?
Ouf, on est sauvé, l'honneur est sauf. Non, mais tu vois des gens qui sortent, puis tu vois personne qui pose des questions. Ça, c'est genre la pire fois de ma vie. Allez-y, merci.
Ça fait plaisir. Vous n'avez pas abordé la littérature italienne. Il y a un auteur que j'aime beaucoup. Son nom, c'est Elsa Morente. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que je pense d'Elsa Morente? Voulez-vous qu'on va parler d'Alberto Moravia? Voulez-vous, on va parler de Bruno Cettati? Voulez-vous, on va parler de Tabucchi? Ce que je pense de Elsa Morente...
Elle est influencée par plusieurs personnes, mais enfin, c'est elle.
Oui, j'ai un gros livre de Elsa Morente. C'est une édition que Gallimard avait fait à une certaine époque où on reprenait plusieurs livres d'un auteur dans un même recueil. Ce que je pense de Elsa Morente, c'est que le livre est comme ça, horizontal, sur une tablette dans ma bibliothèque. Je le vois très bien à hauteur des yeux, puis que je ne l'ai pas encore lu.
Quelque chose.
Mais il est là, par contre. Mais si je comprends bien, vous aimez beaucoup Elsa Morente.
Oui. La story, ça m'a impressionné.
Oui. Juste 4 pas derrière, c'est pas long. 4 pas derrière pour que tout le monde vous entende. Puis s'il vous plaît, si vous vous nommiez, ça serait plus sympathique.
Joanne, je voudrais savoir comment tu fais pour rester en santé.
Est-ce que je suis en santé?
Aussi belle pour toute...
Est-ce que je suis en santé? Comment je fais? Moi, je trouve qu'en ce moment, je fais tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut pas. Avec l'horaire que j'ai, m'oblige à me lever, à me poser une question personnelle. Je ne vais pas répondre en 10 tomes, mais je vais répondre. L'horaire que j'ai en ce moment, j'adore l'horaire que j'ai, puis l'émission que je fais, Pète en onde à la radio le matin, ça me convient bien. Mais pour y arriver, il faut que je me lève à 4 heures du matin. Et mon corps déteste ça. Mon corps déteste ça. Alors, je ne me trouve pas particulièrement en santé. Je ne me trouve pas particulièrement en beauté en ce moment. Je manque de sommeil. J'ai des comportements de compensation. Mais j'imagine, je ne sais pas, en santé, je dois l'être relativement. Alors, je suis ravie que vous me disiez ça parce qu'en ce moment, moi, je trouve que mon corps, il tire. Il tire pour... mon corps est en conflit avec mon horaire. C'est une réponse un peu personnelle à une question un peu personnelle. Merci.
Madame.
Merci. Laure Miranda, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir si... Bon, une bibliothèque, c'est un ensemble de livres, mais c'est aussi un espace. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos bibliothèques ou de votre bibliothèque chez vous? Est-ce que, par exemple, c'est les romans sont dans votre chambre, le bureau. Je ne veux pas des choses personnelles, mais je voudrais savoir s'il y a une organisation spatiale des livres.
Il y a une désorganisation absolue. Avant que les livres rentrent dans ma vie, j'ai raconté ça à cause du travail, les chroniques, les émissions. Tant que c'était les livres que moi j'avais choisis, que j'avais achetés et tout, il y avait relativement un contrôle là-dedans. Mais puis je suis assez compulsive dans mes achats de livres. Mon amoureux est assez compulsif dans les achats de livres. Lui aussi a beaucoup de livres. Ce qui fait qu'il y en a partout. Il y a les murs, c'est partout. Mais là, les murs, c'est plus assez. Il y en a en pile à terre. Puis il y a les livres que je choisis, les livres que j'aime, qui sont mêlés aux livres qui arrivent à cause du travail. Il faudrait départager ça. Alors, imaginez-vous une pièce, par exemple, où il y a des bibliothèques mur à mur, puis des piles de livres à terre, mur à mur. Puis allez dans l'autre pièce à côté, puis il y a des bibliothèques mur à mur, puis il y a un envahissement des livres. Je pourrais parler longtemps de l'envahissement des livres. Et de ceux qui ont cette maladie-là, je pense que c'en est une. Il y a pire que moi, hein? Moi, dès que je trouve quelque chose là-dessus, je le lis. Il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus, là. Tu sais, la maladie des livres. J'ai déjà lu sur un homme, entre autres, qui avait un sentier de livres dans sa maison pour se rendre à son lit. Alors, à côté de lui, c'est vraiment, vraiment très organisé chez nous.
Tu ne t'es pas mis aux plaquettes de lecture électronique?
Non.
Qui permettent justement
non,
d'éviter...
Non, j'en ai pas encore un iPad. On verra, pas tout de suite. Donc, comment je vais faire pour souligner là-dedans?
Ah, on peut le faire avec certaines versions. Ah. Alors, on peut surligner en jaune.
Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je voulais savoir l'auteur qui était le plus fascinant à interviewer.
Oh, wow! Est-ce que je peux vous avoir votre numéro? Je vais vous téléphoner. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que c'est dur de le trouver. De le trouver là. Tu sais, de le trouver tout de suite et de dire, oui, c'était ça. C'était cette personne-là. Ouf! Wow! Il y a plein de noms qui me viennent. L'auteur le plus fascinant. Je vais y penser en... Donnez-moi votre numéro de téléphone. L'auteur le plus... Tu sais, j'ai interviewé Alexandre Jardin la semaine dernière, tellement troublé qu'il dénonce son grand-père et tout. J'ai trouvé ça... Mais c'est récent. Je ne dis pas nécessairement qu'Alexandre Jardin est la personne la plus fascinante que j'ai interviewée. Annie Ernaux, qui est timide et laconique, était très intéressante aussi. Puis j'aime ça parler à Bernard-Henri Lévy, puis j'aime ça parler à toutes sortes de monde. Mais lui, dans le trouble qu'il a d'avoir dénoncé un membre de sa famille, entre autres, c'est certainement, en tout cas, l'invité le plus troublé que j'ai interviewé. Ça, pour commencer une réponse.
Dernière, monsieur.
Oh, c'est tout?
Oui, mon nom est Michel. Avez-vous déjà entendu parler de Louis Doudek? Je ne suis pas un grand lecteur de romans, là, mais je sais que c'est un Montréalais. Ça vous dit quelque chose?
Qui?
Louis Doudek.
Louis?
Doudek.
Doudek.
Non? Ça ne dit rien, malheureusement.
Je pense qu'il est un professeur d'université, mais il avait dit qu'il y avait justement une baisse au niveau de l'écriture, que l'écriture devenait plus au service de la vente. Parce que je vous dis ça comme ça. Là. Vous n'en avez pas entendu parler du tout?
Non. C'est vous?
Non, c'est parce que je marchais sur la rue Saint-Denis, puis le commerce qui a fermé, qui vendait des livres, avait justement ce livre-là sur Louis Doudek qui était vendu vraiment pas cher. Je l'avais acheté à 1$, puis j'avais trouvé ça très intéressant parce que lui, il écrivait en anglais, mais c'était traduit aussi en français.
OK.
Puis je vous disais ça comme ça. Est-ce que je
vous donne... Donc, vous l'appelez comment, son nom?
D-U-D-E-K. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ou...
Doudek.
Ouais.
Oui, c'est ça? D-U-D-E-K. Oui, c'est ça. Okay.
Louis Doudek.
Merci.
Merci.
Oui. Une dernière? Une avant-dernière? OK, bien, on va laisser, si vous permettez... Je vais laisser monsieur en premier, puis ensuite vous. Okay.
Mon nom, c'est Marc. J'aimerais vous demander une chose. Vous avez des briques là-bas derrière vous, des bouquins qui sont assez épais. Pourriez-vous me dire combien de temps ça vous prend pour passer par un bouquin comme ça?
En général, un livre comme celui-là,
oui,
par exemple.
Une brique sur
celui-là, là?
Voilà, par exemple.
Mais celui-là, je ne m'embarquerais pas dans la lecture d'un livre comme ça si je n'avais pas le temps pour le lire.
Ouais.
Est-ce que ça m'a pris une semaine? Est-ce que ça m'a pris 3 jours parce que je n'allais pas me coucher le soir? Je ne m'en souviens plus. Mais j'avais le temps. Alors, comme en ce moment, avec les émissions que j'ai à faire, je ne lirai pas ça. Mais quand on rentre presque dans une transe en lisant un livre, des fois, on peut lire très vite un livre très épais parce qu'on n'est plus capable d'en sortir. Alors, je ne sais pas, peut-être ça m'a pris une semaine.
Et autre question, est-ce que vous sautez d'un livre à l'autre ou vous embarquez dans un livre et ensuite...
Quand je lis des essais... quand je lis pour le travail, quand je lis des essais, même par intérêt personnel, je saute d'un livre à l'autre. Quand je lis des romans, je reste dans le roman. À moins de ne pas l'aimer, je reste dans le roman.
Est-ce que vous connaissez Paris 1919?
Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est un livre d'histoire.
Non.
Qui raconte beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Oui. OK.
OK. Paris 1919.
Bonjour, mon nom c'est Gabriel. Moi, je voudrais savoir, à part de lire des romans, quelle sorte de livre que tu aimes lire?
Oh, mais pourquoi? Pour trouver qu'il y avait trop de romans?
Non, je veux juste connaître ton intérêt.
Mais je sais pas, on va recommencer mon intérêt.
Je veux dire tes intérêts.
Mes intérêts en dehors des romans, vous voulez dire? Je m'intéresse.
Ça peut être
alors, oui,
dans
non, mais je vais répondre.
Quoi,
je vais répondre. OK, je vais répondre. Okay. Je m'intéresse énormément à l'histoire de l'art. J'ai étudié en histoire de l'art. Je m'intéresse énormément à la photographie. Je m'intéresse au graphisme. Je m'intéresse au design. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Pour commencer.
La vraie dernière.
Merci. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous commencez un livre, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, une centaine de pages de lu, puis vous accrochez pas, vous embarquez pas. Est-ce que vous allez quand même jusqu'au bout, bien, si vous abandonnez là?
J'ai pris une décision un jour de ne pas lire quand je n'aimais pas ça. Parce que j'aime lire. J'aime lire énormément, ça doit paraître. De ne pas lire quand ça ne me tentait pas. Je ne veux pas dire quand ça ne me tente pas. Mon travail passe beaucoup par la lecture. Mais un livre qui ne m'intéresse pas, de ne pas le lire, ce n'est pas nécessaire. Il a raison, Daniel Pénac. On n'est pas obligé de le lire. On n'est pas obligé de lire un livre qu'on n'aime pas. C'est la meilleure façon. Il y a des gens, je sais, j'ai des amis, ils sont libres de faire comme ils veulent. Quand ils disent, quand je le commence, il faut que je le finisse. Mais ils ne l'aiment pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, à la limite, quand j'ai choisi mes études, je n'ai même pas choisi la littérature parce que je n'aurais pas voulu que ça soit en dehors d'une recherche personnelle, si vous voulez. Alors, je les abandonne quand je les aime pas.
Merci encore.
Merci à vous
d'être venu.
Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup.
Prochaine rencontre, le 23, 24 ou 25 avril, je vous fais ça de mémoire, Claude Corbeau, recteur de l'UQAM, grand lecteur, grand philosophe. Bonne soirée.
Merci.